Les mesures de police administrative prolongées de 2 semaines sur le territoire, le couvre-feu notamment, reste donc en vigueur. Les élus municipaux de Génération NC déçus, frustrés et un peu en colère après la visite du ministre des Outre-mer. Ils reprochent notamment à François-Noël Buffet de n'avoir fait aucune annonce concrète en faveur des communes. Une jeunesse qui veut faire bouger le territoire. La Marine nationale a accueilli cet après-midi à la base Chalex 8 nouvelles recrues âgées de 18 à 25 ans. Bougez, souriez, vivez. L'agence sanitaire et sociale fait la promotion de l'activité physique quotidienne comme un levier de bien-être mental et social. Une campagne qui démarre aujourd'hui. Et puis les sports, le comité régional d'équitation tente de poursuivre le développement de la pratique et de surmonter la crise. Nous en avons parlé ce midi dans le MAC des sports. Bonsoir à tous et bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité sur le territoire et dans la région Pacifique. Avant de développer tous ces titres, c'est dans un peu plus de 24 heures maintenant que la Cour de cassation doit examiner le pourvoi formulé par les militants de la CCAT incarcérés en métropole. Jean-François Baudin.
Oui, ils sont 5 à être détenus en métropole et notamment Christian Théin, soupçonné par la justice d'être l'un des principaux instigateurs des violences qui se sont déchaînées le 13 mai. 5 membres de la CCAT qui contestent la décision des juges de Nouméa de les placer en détention en métropole, au motif notamment expliquent leurs avocats qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire. Ils dénoncent aussi les conditions de leur transfert. La Cour de cassation, qui doit statuer uniquement sur la détention en métropole, devrait rendre sa décision rapidement. Elle ne se prononcera pas sur le fond du dossier, toujours en instruction. Les 5 membres de la CCAT incarcérés en métropole et les 2 autres en Calédonie sont mis en examen, je vous le rappelle, pour complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
Des établissements scolaires de nouveau la cible d'exactions. C'est à Marais que le collège de Tadine a été vandalisé entre samedi et ce matin. Plusieurs individus ont essayé de voler le coffre-fort sans y parvenir. Cela ne les a pas empêchés de détruire fenêtres, portes, notamment dans le bureau du CPE. L'île de Marais qui a été victime d'exactions toute la semaine dernière déjà. En réaction, Marilyn Sinewami, la maire de Lille, a pris la décision de fermer l'annexe de la mairie située dans la tribu de La Roche jusqu'à mercredi prochain.
Une fermeture sur l'annexe de la mairie située sur La Roche. Donc 3 jours, il y a eu plusieurs dégradations sur plusieurs sites. Des dégradations sur le conseil coutumier de Némoné, sur l'annexe de la mairie. Ils ont fait tomber le portail et puis une entreprise aussi d'un chantier de la commune dont le matériel a été dérobé. Faire appel à la responsabilité de chacun. Ce sont des bâtiments et des biens communs utiles pour la population de Némoné. Et donc il y a eu des palabres qui ont été faits pour ces constructions. Il y a eu des paroles qui ont été échangées, des paroles coutumières. Donc voilà, c'est un appel au civisme et puis un appel à la conscience.
Plusieurs exactions également à Yaté. C'est l'école catholique de Toiroux qui a été visitée pendant les vacances scolaires. Des ordinateurs ainsi que des denrées alimentaires ont été volées. Et enfin, du côté des feux, la journée a été plus calme que ce week-end. Toutefois, à Boulou-Paris, un incendie a démarré aux alentours de 13h30 à proximité des habitations. Ça se passe sur la RP1 A4 à Nassira. Les pompiers sont actuellement mobilisés sur place. Les mesures de police administrative qui sont maintenues pour 2 semaines supplémentaires, c'est ce qui veut notamment dire le couvre-feu, ce qui veut dire notamment que le couvre-feu reste en vigueur, Jean-François Baudin.
Oui, un couvre-feu qui est maintenu de 22h jusqu'à 5h le lendemain matin. Le port, le transport et l'utilisation d'armes à feu et de munitions sont aussi interdits sur l'ensemble du territoire. La vente au détail et le transport de carburant et de tous les produits combustibles restent aussi interdits, notamment en ce qui concerne les bidons et les jerrycans. On rappelle également que les rassemblements de personnes, manifestations et cortèges sont également interdits sur le Grand Nouméa. Enfin, la vente d'alcool reste réglementée du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h à midi. Les quantités aussi sont limitées, 4 litres par personne et par jour pour les alcools inférieurs à 9 degrés, 2 litres pour les boissons entre 9 et 22 degrés et 1 litre pour les alcools forts.
En politique, Calédonie Ensemble dépose un projet de loi du pays pour créer des aides fiscales en faveur des entreprises, des mesures de soutien destinées à aider les entreprises à surmonter la crise née des violences insurrectionnelles. Elisabeth Noir.
Ce sont 4 mesures d'aide aux entreprises que propose Calédonie Ensemble. Elle fait le constat que la liste des conséquences des émeutes est longue, avec 700 entreprises détruites, 1000 radiations d'entreprises individuelles, 180 milliards de dégâts dans le secteur privé, 20 à 25% de PIB perdus, une entreprise sur deux contrainte de recourir au chômage partiel ou total, une consommation qui tourne au ralenti, une réduction d'activité de moitié en moyenne et 60% des chefs d'entreprise qui craignent la cessation de leur entreprise dans les prochains mois. C'est pour leur venir en aide que Calédonie Ensemble propose des mesures. Les deux premières, explique Philippe Dunoyer, concernent l'exonération des aides publiques et des indemnités d'assurance. Les précisions de Philippe Dunoyer.
D'abord, l'exonération des aides de l'État au travers du Fonds de solidarité, des aides que la collectivité provinciale aussi peut attribuer. L'exonération également des indemnités d'assurance, même si aujourd'hui on en attend encore beaucoup. Elles vont être versées au fur et à mesure et il n'y a pas de dispositif qui prévoit leur exonération. Pourtant, si elles sont maintenues dans l'entreprise, elles vont être très importantes pour renouveler le matériel, l'outil de production et relancer l'activité. Donc on propose qu'il n'y ait pas d'imposition sur ces indemnités d'assurance si elles sont maintenues dans l'entreprise.
Et les deux autres mesures prévues dans cette proposition de loi sont des créations de charges exceptionnelles.
De pouvoir amortir sur une année, déduire d'un seul coup les dépenses de remise en état du matériel si on n'est pas assuré. Et je n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas la couverture du risque émeute. Il faut qu'elles puissent être accompagnées aussi. Donc la proposition, c'est on déduit sur une année toutes les dépenses de remise en état. Et puis une provision, ce qui est une charge aussi pour constater la perte de valeur de son fonds commercial. Toute la société civile, les biens des particuliers, mais également ceux des entreprises, subissent une perte de valeur depuis le début de la crise. Mais on ne peut pas aujourd'hui fiscalement le déduire. Ben nous, on propose de créer, de manière encore une fois extraordinaire, cette faculté. Bien sûr, si on a été directement impacté par la crise du 13 mai, sous forme de provision, parce que ça veut dire que lorsqu'un jour, je l'espère, le fonds commercial reprendra de la valeur, ben on pourra revenir à la valeur avant. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on leur permet de déduire cette dépréciation, bien les entreprises vont constater des charges, ça va baisser leurs résultats et potentiellement leurs impôts et leur donner un peu d'air pour maintenir leur activité.
Certaines de ces mesures, comme l'amortissement exceptionnel, s'inspirent de ce qui avait déjà été mis en place après le passage du cyclone Erika. L'exonération des aides publiques avait été instaurée en métropole à l'occasion de la crise Covid. En revanche, deux mesures sont inédites, la provision pour dépréciation du fonds commercial et l'exonération des indemnités d'assurance. Des mesures urgentes qui, pour Calédonie Ensemble, ont vocation à être adoptées avant le 31 décembre pour pouvoir produire tous leurs effets.
De leur côté, les élus municipaux de Génération NC sont déçus, frustrés et un peu en colère après la visite du ministre des Outre-mer. Ils estiment que François-Noël Buffet n'a fait aucune annonce concrète en faveur des communes et qu'il n'a donné aucune garantie dans le domaine de la sécurité.
Les représentants de Génération NC dans les conseils municipaux de Nouméa, de Dabéa et du Mont-d'Or, ainsi que la maire de la Foy, expriment leur inquiétude au lendemain de la visite de François-Noël Buffet. Ils regrettent que le ministre n'ait fait aucune annonce concernant une augmentation de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, pour 2025, de manière à compenser la chute des recettes reversées aux communes par la Nouvelle-Calédonie. Ils estiment également n'avoir aucune visibilité pour la reconstruction, puisque le ministre n'a fourni aucune précision sur les montants ou sur les modalités de financement. Une inquiétude exprimée par Nina Julier, conseillère municipale du Mont-d'Or et porte-parole de Génération NC.
Les communes sont dans une urgence financière absolue. Elles risquent de passer sous tutelle de l'État parce qu'aujourd'hui, elles n'ont plus assez de recettes pour équilibrer leur budget. Le ministre sait très bien la situation dans laquelle on est. 25% de PIB en moins, c'est un PIB d'après-guerre. Et pour autant, il n'a pas fait d'annonce à la hauteur des enjeux. Pas d'annonce financière importante qui permettrait d'apporter un souffle aux communes qui puissent se projeter sur 2025. Pas d'annonce sur la sécurité. Et vous savez à quel point c'est préoccupant, notamment au Mont-d'Or, sur cette fameuse route de Saint-Louis, où on est encore dans l'insécurité totale. Et puis surtout, le ministre n'a pas eu de mots pour les Calédoniens, pour les victimes des exactions. Il n'a pas dit à un moment donné toute la compassion qu'il pouvait avoir pour les Calédoniens. Il a adressé un mot aux forces de l'ordre et rien pour les victimes. Et ça, psychologiquement, c'est décevant.
Le maire de la Foy partage ses inquiétudes. Elle estime que le ministre a annoncé des aides, mais qu'il n'a rien dit de concret. Pour Florence Roland, cela limite la possibilité pour les communes de préparer leur budget 2025. Elle rappelle que globalement, le FIP fonctionnement est en baisse de 4,7 milliards. Cela représente une baisse de 97 millions pour sa seule commune de la Foy. Et il a fallu faire de gros efforts, dit-elle, même si tout n'est pas encore réglé.
On a réussi à équilibrer ce budget en rentrant en discussion avec les agents communaux qui ont accepté une baisse de temps de travail, baissé également les indemnités des élus. Nos prestataires ont fait des efforts conséquents, notamment nos prestataires de transport scolaire. Mais bon, tout ça, ça a un impact bien entendu économique au niveau local. On ne pourra qu'assurer la cantine et le transport jusqu'au 30 novembre. Donc on a aussi un effet négatif sur notre politique jeunesse, hein, puisqu'on a pendant les 15 derniers jours de l'année des enfants, peut-être des collégiens, qui n'iront pas dans leurs établissements scolaires. Et c'est grave quand on sait les jours d'école qu'ils ont déjà manqués au cours de l'année.
Les maires et conseillers municipaux Génération NC craignent une mise sous tutelle des communes calédoniennes, des dossiers que Florence Rolland espère porter au sein de l'ACCDOM, l'Association des communes et collectivités des Outre-mer, dont elle doit prendre la présidence au nom de la Nouvelle-Calédonie en janvier prochain.
La conférence sur le PS2R a repris ce matin au Centre culturel Tchibaou. Elle avait été lancée jeudi en présence de François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer. Aujourd'hui, le gouvernement organisait les débats autour de 5 thèmes. Les principes de la refondation, le modèle économique, le modèle institutionnel, le modèle santé sociale et enfin le modèle sociétal. Une présentation des conclusions sur chacun de ces modèles est prévue demain en début d'après-midi. Et demain, justement, il sera notamment question de budget lors de l'Assemblée de la province des îles qui se réunit à Wé. Les élus doivent en effet examiner un texte sur le budget réajusté de la province pour l'exercice 2024, mais aussi un texte relatif à la reprise de la provision pour risque financier de la créance de la CAFAT. On retiendra aussi qu'ils doivent entériner la modification qui fixe le taux des indemnités, les conditions de déplacement et le régime de couverture sociale des membres de l'Assemblée de province. 17h57 sur Radio Rythme Bleu, on marque une première page publicitaire dans ce journal. Restez avec nous, on reviendra juste après sur la cérémonie d'accueil des nouveaux matelots à la base Chalex qui a eu lieu cet après-midi.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Le Pizza & Pasta a le plaisir de reprendre son service à table. Un vaste choix de pizza, pâtes, risotto, pièces de viande et desserts. Le Pizza & Pasta Takeaway est toujours disponible. Nous avons hâte de vous retrouver. Pizza & Pasta, 24 30 70. Plus d'infos sur notre page Facebook Pizza & Pasta.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal est au fichu.
Des Calédoniens qui répondent à l'appel du large et choisissent de servir leur pays. C'est à la base navale de Chalex que débutait cet après-midi le cours de formation initiale des jeunes matelots. Charlotte Coulson.
Je promets de servir avec fidélité et honneur. C'est avec ces mots que débute le serment de ces 8 nouvelles recrues de la Marine nationale. 3 filles et 5 garçons âgés de 18 à 25 ans qui embarquent pour 2 années dans les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Ce sont tous les ans environ 400 jeunes militaires qui sont recrutés et parmi eux quelques dizaines de matelots. C'est une jeunesse qui veut faire bouger le territoire, selon le général Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Alors ça va leur apporter beaucoup professionnellement, parce qu'ils vont apprendre un métier, une technique, mais ça va leur apporter aussi beaucoup humainement, parce qu'ils auront acquis un savoir-être dont j'espère les entreprises seront friandes demain, c'est ce qu'elles nous ont montré hier, il n'y a pas de raison que ça change. Et on voit qu'il y a une jeunesse qui a beaucoup d'envie, qui a envie de construire ce territoire, qui a envie de s'engager. Et ça fait vraiment plaisir au regard de ce qu'on a pu vivre ces dernières semaines, ces derniers mois, où on a pu quelquefois tous, hein, collectivement, parce qu'on était tous éprouvés, douter de la jeunesse. Moi, je suis confiant, je suis persuadé qu'elle va aider ce territoire à se relever. C'est ce qu'elle nous montre en tout cas au quotidien au sein des forces armées.
Et 8 recrues qui serviront pendant 2 ans en Calédonie. Ils viennent de Païta, de Lifou, de Pointe-Boutée d'ailleurs. Toutes et tous attendent beaucoup de cette expérience avec la Marine nationale. On écoute Benjamin, 24 ans, et Briseis, 19 ans.
C'est pour acquérir d'autres expériences dans la marine et de pouvoir voyager aussi. Se faire montrer aussi en tant que Calédonien, de voyager aussi à travers la marine. Et comme j'habite aussi au bord de mer, aussi sur l'Ifou, du coup j'aime un peu plus les bateaux. Je suis fier d'être marin, je le serai toujours.
Je pense que la marine, elle nous éduque. On retrouve des choses qu'il n'y a pas forcément dans le civil. Étant donné que je viens du Pacifique, je ne me voyais pas faire un métier où j'étais loin de la mer. Il y a de l'appréhension et puis du bon stress en tout cas. Donc j'espère que la marine, elle va nous apporter des qualités, des compétences qu'on n'a pas encore apprises et qu'elle va nous permettre d'évoluer.
Les 8 matelots ont signé cet après-midi leur contrat de 2 ans, les liant à la Marine nationale. Ils commenceront leur engagement par une formation de 6 semaines.
Radio Rythme Bleu, 18h.
Bougez, souriez, vivez. L'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie lance aujourd'hui une campagne de promotion des bienfaits de l'activité physique quotidienne.
Une campagne qui a pour but de promouvoir effectivement l'activité physique comme levier de bien-être mental et social, mais aussi à prévenir la surcharge pondérale qui touche près de 70% des adultes en Nouvelle-Calédonie, dont 38% sont même en situation d'obésité. Jusqu'à la mi-novembre, la SSNC propose donc des actions de proximité pour encourager les Calédoniens à intégrer des exercices physiques dans leur quotidien. Dick Forest est chef de projet à l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie.
Dans l'objectif de la campagne, c'est d'inciter les Calédoniens à intégrer l'activité physique dans le quotidien pour lutter contre la sédentarité notamment et l'inactivité physique. Tout au long de ce mois, nous, on a déjà dans notre programmation des actions sport-santé entre guillemets qui sont prévues en milieu scolaire, en milieu professionnel et aussi des ateliers sport-santé ouverts au grand public. C'est pour ça que le slogan, c'est « bouger, souriez et vivez », parce qu'on a non seulement le bénéfice pour sa santé physique, mais aussi le bénéfice global, le fait d'être heureux, le fait de sentir bien dans sa peau, d'avoir des gens avec qui pratiquer cette activité physique-là. C'est vraiment une campagne où on voulait mettre aussi en avant ce côté le plaisir de bouger, le plaisir de vivre.
Des problèmes de santé qui touchent aussi les jeunes, puisque 8 sur 10 ne respectent pas les recommandations en matière d'activité physique. Dick Forest rappelle que pour rester en forme, il est recommandé de pratiquer au moins 1 heure d'activité physique par jour pour les enfants et 30 minutes pour les adultes.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, après les 4 jours passés par le nouveau ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie, êtes-vous plutôt rassuré ou plutôt inquiet? Si vous êtes plutôt rassuré par la visite de François-Noël Buffet, vous tapez 1. Si vous êtes plutôt inquiet, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation. Rendez-vous demain donc pour la réponse à notre question du jour. C'est une bonne nouvelle pour l'économie du territoire. Les croisières reprennent doucement après près de 5 mois d'arrêt total. Un premier navire a accosté à Lifou en fin de semaine dernière, c'était vendredi dernier. Un espoir pour la reprise des activités touristiques en Calédonie, Charlotte.
Le tourisme avait déjà terriblement souffert pendant l'épidémie de Covid en 2020 et 2021. Cette année, les croisières sont à l'arrêt depuis le mois de mai. Au final, en 4 ans, une seule année d'activité pour les prestataires touristiques. Depuis mai, ce sont près de 50 escales qui ont été annulées, soit près du quart de l'activité annuelle des croisiéristes sur le territoire. Un choc, mais dont se relèvent doucement les prestataires du secteur. En juillet déjà, les discussions entre le gouvernement et les agences de croisière ont débuté. Des échanges qui ont porté leurs fruits, puisque le National Geographic Orient, un navire australien d'une 100 places, a débarqué à Lifou vendredi dernier. Au cœur des discussions, l'agence Wetche Tour, qui a réalisé avec les institutions locales un gros travail de terrain sur l'île. Josiane Caemo est directrice de l'agence.
Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème ici sur Lifou. Il y a aussi eu des problèmes. Mais ce qui était important, c'était d'ouvrir la croisière, mais c'est surtout la sécurité de nos touristes aussi sur l'île. C'est notamment un travail des coutumiers. C'est l'autorisation de la grande chute du Wetch, là où le bateau est la côte. C'est des lobbying dans les tribunes, surtout avec les institutions, sur le sujet de la sécurité en fait des touristes qui vont venir sur Lifou. C'est un débat de discussion, de réflexion et d'organisation. Et puis et surtout de sensibilisation à la population. Ce qui est important, en fait, c'est cet accueil, cet échange, ce contact humain qui permet, en fait, justement, de pouvoir reconquérir après notre crise et puis, voilà, de continuer et surtout d'emmener du pain à la maison.
Une reprise qui se fait donc graduellement. Le 1er novembre, c'est un navire de 200 passagers qui devrait accoster à Lifou. Puis le 14 novembre, à Nouméa, c'est le Westerdam, un bateau de 2000 croisiéristes. Des arrivées qui sont soumises à une condition, le maintien de la sécurité sur le territoire. Élodie Jeunet est directrice de l'agence Quénois. Elle gère la logistique des bateaux de croisière en Nouvelle-Calédonie. Elle intervient donc en premier plan dans les discussions entre les armateurs australiens et les institutions locales.
Les compagnies de croisière bon, sont très vigilantes hein, parce qu'en Australie, on est toujours classé à risque, même si voilà, ce n'est pas tout le territoire. Il y a des soucis actuellement. Lifou, notamment, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias internationaux. Du coup, c'était assez rassurant pour eux de redémarrer par Lifou. Voilà, ils sont assez prudents, mais ils sont en lien avec le gouvernement australien. Là, ils vont d'ailleurs sûrement venir sur Nouméa pour se rendre compte eux-mêmes de l'état des lieux de la situation, que ce soit sur Nouméa ou Lifou. Donc voilà, le travail n'est pas fini, en tout cas avec les armateurs. Ils font aussi travail de terrain pour pouvoir faire remonter des informations viables au niveau des directions des armateurs. La chance qu'on a, c'est que les armateurs, en tout cas, qui avaient déjà réservé des escales en Calédonie, on va dire entre décembre 2024 et décembre 2025, nous ont confirmé qu'ils maintiendraient leur programmation telle qu'elle, si tout se passait bien pour la reprise des croisières. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité au moins sur un an, là, si jamais on peut reprendre en novembre-décembre.
Une reprise donc soumise au contrôle des représentants de compagnies de croisières australiennes. Deux d'entre eux doivent d'ailleurs se rendre à Nouméa cette semaine. Sur le territoire, ce sont près de 450 prestataires touristiques qui dépendent de cette relance. Un bon nombre d'entre eux ont déjà dû cesser leur activité. Chez Sud Tourisme, on attend le retour des croisiéristes avec beaucoup d'impatience. Nadia Patriarca est responsable des offices de tourisme pour le sud de la Nouvelle-Calédonie.
En fermeture définitive, on en dénombre environ entre 10 et 15. Oui, c'est un chiffre important et encore une fois, le secteur a été très résilient et ce n'est pas encore simple parce que les taux de remplissage ne permettent pas aux prestataires actuellement de se dégager une rémunération et donc de vivre de leur activité. Donc on n'en est pas encore sorti, mais c'est extrêmement positif ce qui est en train de se passer là. On a beaucoup d'espoir, c'est ce qui permet aussi de faire rayonner la destination. Ces croisiéristes-là restent à la journée et nous, notre objectif, c'est de leur donner envie de revenir en format séjour, de venir consommer la Nouvelle-Calédonie sur 5 jours, 7 jours et de découvrir vraiment plus ce qu'on peut proposer finalement que ce qu'ils voient en une journée.
Une relance également suivie par Nouvelle-Calédonie Tourisme, l'agence de promotion du Caillou à l'international. Après une première phase de gestion de crise, l'agence veut maintenant regagner la confiance du public, notamment étranger, pour attirer les touristes sur le territoire. C'est dans cette optique que les agents de NCT se sont rendus à Lifou vendredi dernier. Julie Laronde, directrice de NCT.
Cette première escale contribue à restaurer l'image de la Nouvelle-Calédonie à l'international, très détériorée forcément par ce qui a été vécu ici en Nouvelle-Calédonie. Ça va contribuer aussi à regagner la confiance, non seulement du grand public, des touristes, enfin des consommateurs étrangers, mais également des revendeurs, des tour opérateurs, des agents de voyage internationaux avec qui nous sommes en contact régulièrement depuis le début de la crise. Donc ça, c'est vraiment un signal positif, c'est un retour à la normale, c'est une première étape. Et c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Donc on va tourner du contenu, interviewer les croisiéristes, justement pour les faire témoigner de l'expérience qu'ils vivent à Lifou et les faire témoigner de la normalité, avec donc ce contenu qui sera diffusé notamment sur le marché australien, qui est un de nos marchés prioritaires.
L'agence Nouvelle-Calédonie Tourisme espère entrer d'ici le mois de décembre dans une phase de promotion, une étape de relance des marchés néo-zélandais, australiens et métropolitains. En attendant, le programme des croisières pour l'année 2025 est maintenu. Cependant, notez qu'aucune escale n'est prévue pour l'instant à l'île des Pins et Marais.
Une info pratique maintenant, des travaux de nuit débutent ce soir dans le centre-ville de Nouméa, plus particulièrement sur l'avenue de la Victoire, Henri Lafleur. Il s'agit de refaire le revêtement de la chaussée entre les rues Verneuil et de Sébastopol. Des travaux qui se dérouleront donc la nuit de 20h à 5h du matin jusqu'au 15 novembre. La circulation automobile et piétonne sera maintenue pendant la durée des travaux dans les meilleures conditions de sécurité, indique la mairie de Nouméa, qui précise également que le stationnement sera interdit dans les zones de travaux. 18h08 sur Radio Rythme Bleu, on marque une seconde page publicitaire avant de voir comment le comité régional d'équitation tente de surmonter la crise.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24h sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Vous cherchez l'énergie instantanée avec une touche de délice ? Rechargez votre journée avec les parfums irrésistibles Nescafé Mocha, Nescafé Latte et Nescafé Original.
Plongez dans l'arôme riche du café Nescafé. Boostez votre énergie avec nos boissons prêtes à déguster.
Avec Nescafé Mocha, Nescafé Latte et Nescafé Original, préparez-vous pour un moment de bonheur caféiné.
Nescafé, rechargez-vous.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal est au fichu.
Et je le disais avant la pause, le comité régional d'équitation tente de poursuivre le développement de la pratique et de surmonter la crise. Nous en avons parlé ce midi dans le MAC des sports. Nous étions en compagnie de Céline Lasblaise, présidente du comité, mais aussi de la présidente de l'association des cavaliers de Dumbéa, Christelle Giovanelli, et enfin de Thibaut Damas, conseiller technique du comité extrait.
La priorité, c'était déjà, lors de ces derniers événements, le bien-être de leurs chevaux. Parce qu'au niveau alimentation, il fallait quand même gérer. Et après, on a pu, petit à petit, avec le calme qui est revenu, relancer un petit peu les activités. Un point important, c'est justement les compétitions. Parce que les compétitions amènent de l'entraînement, de la motivation, et pour essayer de reprendre une activité le plus normal possible.
Christelle Giovanelli, malgré ces périodes de troubles, vous avez pu présenter à l'ensemble des pratiquants au Yala Ranch cette carrière innovante qui a reçu le soutien de la province sud.
C'est un projet qu'on a initié l'année dernière et qu'on a proposé au budget participatif de la province sud, rénover notre carrière en mettant des matériaux de la fibre géotextile. Donc au niveau bien-être animal, c'est fabuleux. Au niveau environnement, il y a moins de consommation d'eau. C'est un projet qui nous tenait à cœur.
Céline Lasblaise, la semaine du cheval, malheureusement évidemment cette année elle n'a pas pu se tenir, mais vous prévoyez déjà un plan de secours.
Oui, tout à fait. Nous allons avoir 3 week-ends du cheval. Le vendredi 1er et le samedi 2 novembre, le championnat de Hunter sur les structures du Yala Ranch. Le 23 et 24 novembre, sur les installations de l'Étrier de Nouméa, les championnats de CSO Club et Equifun. Le 30 novembre et 1er décembre, les championnats de CSO Amateur organisés conjointement avec la Secato à la Tamois pour clôturer ces 3 week-ends.
Un MAC des sports que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet www.rrb.nc. Et puis du triathlon, Caroline Favier et David Esposito ont participé ce week-end à l'étape de la Coupe du Monde qui se déroulait à Tahiti. Le triathlon Xterra Moréa, au programme 1700 mètres de natation, 28 km de VTT et enfin 10 km de trail avec une montée jusqu'en haut du Belvédère. Caroline Favier a terminé 4e au scratch et 2e en amateur. David Esposito, lui, a terminé 7e au scratch et 3e en amateur. Ils ont gagné leur billet pour le championnat du monde qui aura lieu en Italie l'année prochaine. 18h12, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, sur la moitié nord de la Grande Terre, puis sur la côte est, les nuages prédomineront et donneront des averses qui seront plus marquées sur le nord-est. Ailleurs, le temps restera sec. Le vent de 5 à 10 nœuds de secteur est en début de nuit s'orientera au secteur nord-est ensuite. Sur l'ouest, à Lifou et Marais, les températures minimales seront en hausse, entre 17 et 21 degrés. Ailleurs, elles resteront comprises entre 20 et 22 degrés. Demain matin, sur l'est, les averses s'atténueront mais resteront fréquentes dans un ciel très nuageux. Le ciel se chargera également sur l'ouest, Marais et Lifou. Le vent sera de secteur nord-est, entre 5 et 10 nœuds, localement plus de 10 nœuds aux extrémités de la Grande Terre. Sur l'ouest, le faible vent de nord-est passera au secteur sud en cours de matinée, Léo.